Cette semaine, à Vidéo Terreur, le réalisateur italien Lucio Fulci.
Vidéo Terreur est un podcast sur les films d'horreur avec deux passionnés, Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. Cet épisode est produit par la télé du Haut du Lac.
Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on reste en Italie. On va parler du grand réalisateur Lucio Fulci avec nul autre que Jimmy Francoeur. Salut Jimmy.
Salut Pierre, ça va?
Ça va bien toi?
Oui.
Oui. Hey, on va parler de Lucio Fulci. Bon, j'imagine que pour certaines personnes, ça c'est un nom important. Pour d'autres, peut-être pas. C'est qui Lucio Fulci? Est-ce que je prononce bien son nom? Excuse-moi.
Ouais, écoute, autant que mes connaissances italiennes permettent de le dire, je pense que oui. Effectivement, là, c'est un réalisateur là, qui est né en 1927 à Rome. En fait, je pense que si on n'a pas un intérêt pour l'horreur italienne, c'est peut-être un oncle là, qui...
Parce que c'est spécifiquement ce qu'il a fait. Là.
Ben,
t'es associé au genre, un peu comme Romero,
oui.
Est associé au genre de
zombie. Oui, tout à fait. Il est associé au genre, mais en fait, il a fait 61 films. Il a joué même dans plusieurs de ses films. Il a joué dans à peu près de 25 films.
OK.
Fait que, il a écrit des scénarios. Fait que c'est vraiment un scénariste, réalisateur, acteur. Mais quand on parle d'acteur, c'est souvent de la figuration. Ou des
un peu à la Hitchcock?
Oui, beaucoup. Parce qu'on sait, bon, Hitchcock là, apparaissait souvent dans ses films, des fois très, très brièvement. On est davantage là-dedans. Là. Fait que Fulci, en fait, comme je dis, on l'associe maintenant à l'horreur, mais il a fait à peu près de tout. Peut-être quelques éléments biographiques. Là. Il a commencé, en fait, ses études en médecine. Puis,
il est loin du cinéma.
Oui, carrément. Là. Puis, il y a eu aussi, là, il faisait un peu de critique de cinéma. Puis, à un moment donné, suite à une séparation avec une femme, là, décide un peu comme de tout sacrer là, puis va aller là, étudier en cinéma. Fait que son premier film, c'est en 59. Tu sais, Fulci, en fait, là, on pourrait dire qu'il y a plusieurs phases. Là. Il y a la phase où on pourrait dire qu'il est moins connu, là, mais dans cette phase-là, il a fait beaucoup, beaucoup de comédies.
Hein?
Ce qu'on n'a pas tendance nécessairement à savoir. Puis je dirais, tu sais, au début, en fait, on est vraiment dans... Il fait un peu tout ce qu'on lui offre, là, comme la plupart des cinéastes en début
Gis, de carrière. Donc, on le propose... C'est les studios qui proposent des scénarios, puis lui...
Ouais, exactement. T'sais, puis je dirais, sa carrière va commencer peut-être plus avec... Par exemple, le bon Don't Torture a Duckling, puis A Lizard in Woman's Skin, qui sont des giallo. Puis à partir de là, je dirais, il va réussir comme à faire, comme je dirais, sa marque.
Okay.
Surtout avec Don't Torture a Duckling. Si on se ramène, on est à Rome. C'est un film avec... on parle de prêtres, de pédophilie, de meurtre. Puis, on est quand même dans... Le pape est pas loin, non?
Oui.
Fait que, tu sais... Très, très tôt, Fulci va se positionner aussi, je dirais, à partir du moment où il va avoir des projets peut-être un peu plus personnels, quand même assez en mode provocation. Puis ça, je pense, ça va teinter sa carrière, je dirais.
Il va être reconnu pour ça. Là.
Oui, oui. Puis, tu sais, je vais t'avouer là, que, tu sais, on aurait, bon, Fulci, c'est quand même un pilier important du cinéma d'horreur italien. Mais j'ai repoussé souvent, là, tu sais, on est rendu à saison 3, puis dès la saison 1, j'avais comme l'intention d'en parler. Mais tu sais, si on prend un cinéaste, mettons, comme Dario Argento, où je dirais que le gars est assez facile à cerner au sens où, si on parle à ses collaborateurs, on a quand même une description du personnage qui est assez cohérente. Fulci, je dirais que c'est quelqu'un qui est excessivement mystérieux. Puis, tu sais, qu'on va dépeindre de façon vraiment très, très polarisée. Fait que c'est un personnage qui est très dur à cerner. Tu sais, par exemple...
Les gens l'aimaient ou le détestaient.
Ouais. Puis même ceux qui l'aimaient, des fois, vont le dépeindre dans des termes pas nécessairement très élogieux. Tu sais, bon, j'ai écouté une entrevue récemment où on disait, écoute, Fulci, c'était un excellent réalisateur, mais c'était un menteur. Tu sais, il parlait en mal un peu de tout le monde. Il y en a qui vont le dépeindre comme presque un fou furieux, là, qui criait, qui piquait des colères incroyables là, pendant les studios. Même, on disait bon, que t'es presque sadique là, dans des scènes inconfortables qui allaient les faire perdurer presque volontairement. Puis au contraire, on va avoir des gens qui vont dire, écoute, c'est d'une douceur, d'une gentillesse. Fait que c'est vraiment difficile d'en arriver à avoir une idée de c'est qui l'homme derrière l'œuvre.
Ouais.
Puis, tu sais, faut savoir aussi, là, Fulci, encore une fois, je pense qu'on va l'aborder ensemble. Il y a comme trois périodes. Là. Sa période, disons, il commence le cinéma. Il y a la période de l'âge d'or là, qui serait un peu comme années 70-80. Puis Un peu
la
comme
chute.
La chute, tu sais, en fait, qui suit un peu aussi le déclin là, de l'industrie du cinéma italien. Mais à partir des années 80, il commence à avoir des problèmes de santé, il va être pris entre autres avec le diabète. Là.
Okay.
Puis je pense que ça va beaucoup teinter la personne aussi. À la fin de sa carrière, il est en chaise roulante. Puis je pense qu'il y avait comme une amertume. Puis il ne faut pas oublier qu'en Italie aussi, c'est pas comme ici où les soins de santé sont gratuits. Là. À une certaine période, il fait des films en fait pour payer ses bills d'hôpitaux. Là.
Fait que dans ce temps-là, t'es moins sur le côté artistique ou de faire un bon film plutôt que là, ce que tu veux, c'est l'argent. Hein?
Tout à fait. Puis, on sent en fait là, une amertume dans son œuvre aussi qui va comme progresser, là, je dirais, graduellement au fil du temps. Fait que le personnage lui-même, comme Fulci, encore une fois, c'est qui? Je dirais encore une fois, là, un portrait cohérent. On a peu cette espèce de fascination pour l'homme. On va l'avoir aussi dans un documentaire qui est sorti en 2019. On essaie un peu, on va interviewer entre autres ses filles. Il y a comme un intérêt à savoir comme
c'est qui
ce gars-là? C'est-tu le maniaque? C'est-tu le bon gars? C'est un mélange de tout ça. Il reste quand même un personnage assez mystérieux. Puis comme je dis, moi personnellement, j'ai eu comme un peu de réticence à l'amener à la télé, à en jaser dans l'émission parce que c'est difficile d'en arriver avec un portrait là, comme un cohérent.
Cohérent qu'on dit, c'est clair que c'est ça. Est-ce que son œuvre, du début à la fin, est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières? Tu disais qu'on sentait peut-être même l'amertume de sa vie au niveau de son œuvre.
Ouais, ben, tu sais, encore une fois, là, tu sais, on va lui. Ben, tu sais, je pense qu'il y a des caractéristiques qui sont à la fois un plus et un moins. T'sais, par exemple, là, certains vont y reprocher son abus de violence, tu sais, à l'écran. Puis en même temps, ça va être aussi probablement ce qui fait que ses fans sont ses plus grands fans, tu sais.
Ouais. C'est ce qu'on veut quand on écoute un film d'horreur. Ouais. Ben, on veut violence, mais en tout cas, on veut avoir peur.
Oui, tout à fait. Mais tu sais, on va reprendre par exemple, il a fait un film là, de mafia là, qui s'appelle Contrebande. Puis ça, si on ne l'a pas vu, là, je veux dire, il y a des. Tu sais, on s'entend, là, on n'est pas dans l'horreur, donc on est dans le film de mafia. Quand on regarde les scènes de fusillade à des. Je veux dire, c'est complètement extrême. Là. Je veux dire, tu sais, c'est. On pourrait dire que c'est comme déplacé, ça n'a pas sa place.
Ouais, OK.
Puis même, tu sais, je dirais que je pense qu'à certains égards, ça nuit au film. On reconnaît la signature là, de Fulci pour la violence démesurée. Mais tu sais, ce qui rend ça intéressant quand on regarde ces films-là, c'est qu'on en arrive à se dire, OK, on n'est pas tant pour plaire à ses fans, on n'est pas tant pour, tu sais, des intérêts économiques, parce qu'à la rigueur, tu sais, ça sert pas nécessairement, c'est pas le but du film, en fait. Fait que là, on est vraiment comme un choix artistique, tu sais. La violence chez Fulci, c'est un thème récurrent, même dans les films, encore une fois, où ça s'y prêterait à peu ou pas. T'sais. Fait que ça, c'est un élément. Puis, tu sais, il y a toujours le considérant aussi du budget.
Ouais.
Tu sais, si je reviens avec, on va dire à peu près son âge d'or, là, mi-70, mi-80. Tu sais, après ça, encore une fois, l'industrie du cinéma italienne va commencer à s'essouffler, va manquer d'argent. Puis, tu sais, il disait en entrevue d'ailleurs, tu sais, moi, si quand je fais une prise, souvent j'ai du budget pour en faire une. Si je suis chanceux, j'en ai deux. Kubrick peut se permettre de reprendre une scène 116 fois.
Oui, oui, c'est ça.
Pas pour enlever quoi que ce soit à Kubrick, mais à un moment donné aussi, ça devient dur de comparer des réalisateurs.
Tu peux pas être perfect. T'as pas les moyens d'être perfectionniste.
Exactement, tu sais. Ça, à un moment donné aussi, on peut bien comparer les réalisateurs sur les films, mais aussi, il y a toujours le considérant du budget. T'sais, avec une prise, on va faire ce qu'on va faire. Là,
ah, oui.
Bon. Puis quand on parle un peu de son amertume, je pense aussi qu'elle vient de là. Le côté aussi, il a connu quand même une période où les budgets sont au rendez-vous, on a de l'argent, on peut avoir des œuvres quand même qui sont intéressantes. Puis à la fin, les budgets diminuent. Fait que je pense que ça doit être difficile aussi comme auteur. Mais clairement, il y a cet élément-là. On y a reproché aussi beaucoup. Je dirais une certaine forme de misogynie qui est dure à savoir, encore une fois, si tu le personnage, si tu son œuvre.
C'est la culture italienne, c'est très misogyne. Là,
Je dirais particulièrement là, dans ces films, là, je dirais que on attend la violence là, au niveau des femmes est extrêmement, des fois, intense. Je dirais dans sa période, là, je dirais que ça a été surtout central. On peut en parler tout de suite là, de New York Reaper. Là, où ça,
ouais,
ça a
c'est
été
ça,
comme,
c'est les films. Là, c'est ça que j'avais le goût d'entendre, des noms de films.
Ben, tu sais, sa période. En fait, là, moi, je dirais, là, si on regarde un peu la période dorée Les Other Woman's Skin, Don't Torture Darkling, là, c'est Giallo. C'est des films extrêmement beaux, bien tournés. T'sais. Fait qu'à partir de là, je dirais il y a son élan. Là, à partir de là, ensuite, là, on va aller quand il va. Je dirais qu'il va trouver, je pense, son créneau justement dans les films où il y a de la place pour exprimer cette espèce de violence-là. Puis on va arriver, bon, je dirais, dans son âge d'or là, qu'on pourrait faire commencer avec Zombie 2. Là.
Ouais.
Zombie, là, qui va être bon comme une fausse suite là, de Dawn of the Dead. À mon avis, là, c'est probablement encore un des meilleurs films de zombies. Là, parce que, bon, tu sais, pour rien enlever à Romero, mais tu sais, Dawn of the Dead, en fait, c'est des gens peinturés en vert ouais. bleu. Fulci va amener vraiment le zombie, je dirais, le cadavre. Là. Écoute, ça avance à peine, c'est tout croche, c'est purulent, c'est des morceaux de viande qui avancent. Je pense que c'est le premier à avoir vraiment mis comme, vraiment, appelons ça la mort vraiment là, à l'avant-plan. Puis c'est ce qui va lancer vraiment, je dirais, sa carrière dans l'horreur. Là. Bon, après Zombie 2, on va avoir City of the Living Dead. Qui reste encore une fois, parce qu'on va dire souvent qu'il a fait une trilogie de zombies. Donc, City of the Living Dead, on amène aussi, là, je dirais, un, on amène le zombie, mais on est vraiment aussi dans le surnaturel. Puis, bon, encore une fois, là, on parlait à un moment donné de camouflage à l'italienne. Ça se passe aux États-Unis. Un excellent film, là, je dirais tout en finesse. Autant de finesse que Fulci est capable de mettre, parce qu'encore une fois, les scènes gore sont extrêmement. On monte le volume, il y a de la ouais. couleur. Là. Après ça, on va avoir aussi The House by the Cemetery.
Ouais.
Puis, à mon avis, c'est probablement un de ces grands films. Là. Il va y avoir aussi The Beyond, mais House by the Cemetery, c'est un film quand même, je dirais, avec un bon rythme. Mais tu sais, Fulci, ça sera jamais un réalisateur qui va nous mettre beaucoup de. Tu sais, on regarde pas ça en se disant, qu'est-ce qui va arriver? On n'est pas au niveau de l'intrigue. C'est souvent des films un peu surréalistes où les choses arrivent sans qu'on comprenne nécessairement.
Côté contemplatif?
Oui. Mais justement, tu sais, on a de la contemplation, on a même un peu une logique qu'on appelle souvent de rêve, là, avec des explosions. viscéral, extrême. C'est pas un cinéma rationnel. C'est pas, on n'est pas, encore une fois, dans. Clairement, on n'écoute pas de l'horreur pour réfléchir, mais vraiment pas là-dedans. Fait que, tu sais, après ça, on va avoir The Beyond, qui est probablement son plus grand film. Ouais, tout à fait, là. Puis c'est à ce moment-là, probablement, de sa carrière aussi, qu'il a le plus carte blanche pour faire ce qu'il veut. Puis en fait, il y avait le goût dans ce film-là, entre autres, de faire un film, je dirais presque. Je pense qu'il disait, entre autres, que le scénario tenait sur une page ou deux, là. On est vraiment comme dans un rêve qu'on va écouter, puis même des changements de décor. Tu sais, par exemple, bon, il y a une scène à un moment donné, ils sont dans la cave, puis ils ouvrent une porte, puis là, ils sont rendus complètement là, dans un hôpital. C'est un peu comme on aurait dans un rêve où les choses changent un peu, s'imbriquent sans qu'on...
Il n'y a pas nécessairement une logique cartésienne, mais c'est pas grave, on fait fi de ça. Là.
Tout à fait, puis c'est un film aussi extrêmement, tu sais, comme je dirais nihiliste. Là, la finale, en fait, là, les gens se ramassent comme aveugles en enfer, puis... avec aucune voie de sortie. Fait que, tu sais, on voit aussi, tu sais, non seulement la violence, là, mais aussi le côté, tu sais, c'est noir, c'est il n'y a aucun espoir. En fait, dans l'œuvre, je dirais, tu sais, horreur de Fulci, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Il n'y a pas de finale heureuse.
Sombre.
C'est sombre, c'est un peu même, comme je dis, nihiliste. Là. Puis, sur cette lancée-là, on va arriver justement à New York Reaper. Puis, c'est probablement là, je dirais que. Il va avoir quelque chose au niveau de sa carrière. Parce que, bon, New York Reaper, encore une fois, bon, on fait passer l'action à New York. Puis j'ai l'impression qu'on a poussé... Fulci arrive un peu au maximum, tu sais, il a tiré la limite, puis il arrive un peu au maximum même de la limite de ses propres fans. Il décide, bon, New York Reaper, c'est un giallo. Il décide un peu de retourner, je dirais, à ce qu'il l'a fait comme connaître. Avec une violence, je dirais, inconfortable. Je dirais, ouais. Je pense que c'est le terme.
Exagéré.
Oui, mais, tu sais, entre autres, on a des scènes où, tu sais, bon, une scène avec un rasoir où ça dure, là, c'est long, puis on en arrive à, tu sais, alors que la violence auparavant était un peu, comme je dirais, grotesque, là, c'est comme, on y croit pas, mais c'est intense. Là, je dirais, il va amener une espèce de réalisme qui rend
malaisant.
Ça malaisant. Puis, il va avoir même au niveau de ses fans une espèce de mouvement de recul où on va faire « Ouais, là, je sais plus si on est nécessairement là. » Tu sais, je pense qu'on est allé trop loin. même aujourd'hui, là, je dirais que, tu sais, de par la réalisation, tu sais, bon, y a les scènes elles-mêmes sont difficiles, mais l'atmosphère est comme, est crasse. On est dans le New York, là, des années 80 où, tu sais, avant que ça devienne, mettons, je dirais, le New York, le happy d'aujourd'hui, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un film qui a beaucoup amené, je dirais, de beaucoup de critiques de la part des gens qui étaient clairement pas ses fans, mais même ses fans ont commencé un peu à avoir un mouvement de recul. Puis à partir de là, on va avoir le Murder Rock, là, qui est un hybride giallo, film un peu à la Flashdance. Clairement, là, on a mis Flashdance puis un giallo dans un sac, puis on a vu ce que... on a dit, bien, c'est ça que je veux faire, mais... Mais la violence est extrêmement, je dirais, amenuisée. Ben, en fait, le tueur tue avec une aiguille empoisonnée. Il n'y a à peu près pas de sang. Puis on voit là, qu'à un moment donné, je pense que Fulchen est lui-même arrivé à une espèce de, peut-être, d'autocritique, ou en tout cas de... Je crois clairement qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'il était allé comme trop loin. Puis que là, on avait de la misère à le suivre. Puis là, je dirais, je pense que c'est là que sa carrière se m'a déraillé. Parce que là, ses fans, en fait, je pense qu'ils en demandaient pas tant. Ses fans ne le reconnaissent plus. Ses détracteurs, de toute façon, ne s'intéressaient pas à son œuvre. Fait que Murder Rock, là, je dirais que c'est... Là, c'est vraiment, à mon avis, le film où on va commencer à aller dans la troisième partie, qui est plus le déclin. Là.
OK. Avant de parler de son déclin, point de vue musical, on sait que c'est bien important. On va penser à Morricone pour les films de Leone, aux Goblins pour Dario Argento. Est-ce que lui, il est associé à... un genre musical particulier?
Oui, bien, tu sais, Ennio Morricone va avoir fait de la musique pour ses films, entre autres, là, Lizard and Woman's Skin. Là, il va faire une excellente bande sonore. Mais je dirais le nom qu'on va associer à lui, là, c'est Fabio Frizzi, là, qui va faire une musique un peu, je dirais à l'époque, un peu contre-courant. T'sais, on a eu beaucoup de synthétiseurs avec John Carpenter, puis après ça, ça va devenir là, t'sais, très marquant des années 80, mais... Le style de Fabio Frizzi, c'est du synthétiseur, beaucoup de synthétiseur, mais on est loin là, de Carpenter ou des Goblins. C'est un mélange des fois un peu d'orgue, puis un peu, tu sais, des fois presque, je dirais, comme ça peut être simplement comme un beat, là, pouf, 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 avec un peu d'orgue. Là. C'est super intéressant, là, mais tu sais, clairement, je dirais, si on associe comme... au niveau musical, quelqu'un, Fabio Frizzi, Fulci, c'est l'équipe, là, je dirais, de son pic, là, de l'âge d'or, là, parce qu'il va avoir fait la musique de Zombie, City of the Living Dead, The Beyond, Murder Rock, mais il va avoir Kate Emerson aussi pour Murder Rock, mais c'est dans sa période de l'âge d'or, c'est Fabio Frizzi, clairement. Là.
OK. Comme on vient de parler d'Argento, là, on mélange ou on compare souvent Argento puis Fulci, ben, je dis on mélange, je parle pour moi des fois qu'il y a de la misère de faire la différence. Pourquoi on les associe autant, ces deux réalisateurs-là?
Bien, c'est une bonne question. En fait, tu sais, à un certain moment donné, je dirais, tu sais, au niveau, là, tu sais, dans la pyramide, on pourrait dire ça, l'échelle, là, les hiérarchies, tu sais, clairement, là, dans l'horreur à l'Italie, à un moment donné, il y a Argento puis il y a Fulci, là. Tu sais, c'est un peu comme le Coke puis le Pepsi des années 80.
Okay.
C'est les deux figures importantes. Fait que, tu sais, les deux ont leurs fans, puis il s'installe une rivalité entre les deux, là.
OK, ils s'aimaient pas ou...
Ben, écoute, je pense que, tu sais, à partir du moment où il y en a deux grands, les égos d'artistes veulent être le premier. Fait que, tu sais, il y a comme une compétition à certains égards, ou en tout cas une rivalité. Puis même dans les entrevues, tu sais, il y a une entrevue de Fulci, entre autres, où on le dit clairement, là. Je pense pas que Fulci va réussir à nécessairement prendre, tu sais, comme la première place, parce qu'on va toujours le comparer...
L'éternel deuxième?
Ouais. Puis ça, je pense que ça alimente aussi son insatisfaction. Puis il n'y aura jamais nécessairement le niveau de reconnaissance que Argento va avoir. Tu sais, par exemple, bon, la Cinémathèque française, à un moment donné, arrive avec une reconnaissance de l'œuvre d'Argento. Ce qui est drôle, parce qu'Argento, au moment où on le reconnaît, il n'en a comme plus besoin, puis il leur dit, ben c'est cute, là, mais c'était un peu tard. Fait que, ouais. Mais tu sais, il n'y aura jamais nécessairement cette reconnaissance-là. Par contre, ce qui est intéressant, appelons ça dans la relation des deux hommes, tu sais, comme je disais tantôt, Fulci, son état de santé, à un moment donné, va devenir, tu sais, ses derniers films, là, il va être dirigé en chaise roulante. Puis,
okay.
Argento, à un moment donné, voit un peu, je dirais, bon, tu sais, c'est quand même deux compatriotes. Puis, à un moment donné, il voit un peu la descente un peu de Fulci, puis il va décider, entre autres, de financer un film pour lui, de le produire, ce qui devait être Wax Max, là, Masque de cire. Puis l'idée, c'est que les deux grands fassent équipe pour en arriver à...
Chef-d'œuvre.
Ouais. Puis, tu sais, Argento le fait vraiment aussi dans une optique. Il voit bien que c'est peut-être la dernière chance qu'il a de produire un film. Puis malheureusement, en fait, Fulci va mourir avant. Tout dans la période de pré-production. Le film va quand même lui être dédié à la fin. Puis Argento va même être le maître de cérémonie à l'enterrement de Fulci. Il y a comme eu une clôture après coup là, un peu de cette rivalité. Mais je pense que Fulci a comme toujours... Je pense qu'ultimement, comme on disait, c'est un homme qui est dur à cerner, mais je pense que l'amertume, c'est quand même quelque chose qu'on peut reconnaître là, chez l'homme.
À quelque part, là, ils ont grandi ensemble, ils devaient être dans les mêmes milieux, ils se sont croisés énormément. Fait qu'ils ont dû développer une certaine amitié dans cette rivalité-là.
Mm-hmm, tout à fait.
Une fois que la rivalité n'est plus là parce que les deux marchent presque plus, ben je pense que c'est l'amitié qui ressort, ça se peut-tu?
Ouais, je pense que c'est une belle façon de dire, effectivement.
Puis donc, sa carrière s'est terminée de manière décevante pour Fulci.
Oui, ben tu sais, encore une fois, il a suivi la pente descendante là, de l'industrie du cinéma italienne, donc les budgets sont de moins en moins là, puis du fait que les budgets sont de moins en moins là, tu sais, les effets spéciaux sont moins crédibles. Encore une fois, la maladie l'a beaucoup affecté aussi. Tu sais, je parlais tantôt là, tu sais, de Zombie 3 qui va tourner aux Philippines. Il fait chaud, les conditions sont misérables. Il n'y a plus la santé pour le faire. À peu près à 80% du projet, il est obligé de retourner en Italie. Fait que, tu sais, c'est dur aussi probablement d'être créatif puis d'être, je dirais, animé quand on souffre constamment. Là. Fait que, tu sais, on le voit aussi là, dans son œuvre à la fin. Il y a comme un... On peut presque voir la fatigue, l'épuisement. Puis c'est une lente descente. Il y a quand même des films, je dirais, comme intéressants là, dans la troisième période. Mais tu sais, comme bien des choses, on peut pas s'empêcher de regarder ce qui a été fait avant. Mais tu sais, même Argento, la troisième phase de sa carrière est énormément moins intéressante.
Mais surtout quand on compare à des périodes fastes, mm-hmm. C'est difficile, mais c'est ça la vie d'un réalisateur aussi, là.
Ben, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que ça doit être difficile d'autant plus quand tu as connu les bonnes années.
Oui. Des fois, ben, on retrouve des choses. Moi, je pense souvent à Coppola dans ce temps-là. Ces années 70 ont été comme... Puis après, ces films seront encore bons. Mm-hmm. Mais mon Dieu, on n'est plus là. Pourquoi? Ben là, je peux pas l'expliquer, là, mais je pense que c'est normal. Quelqu'un qui connaît pas Fulci, là il vient écouter l'émission. Quel film tu recommanderais? Ce serait quoi, mettons, ses films les plus importants, puis pourquoi? T'sais, par quoi on devrait commencer, puis par quoi on devrait continuer si on veut se faire, mettons, une bonne soirée, une bonne semaine Fulci? Là?
Ben, tu sais, je pense que Zombie 2 ou Zombie, là, c'est probablement
la meilleure porte d'entrée.
La meilleure porte d'entrée, bon, parce que la plupart des gens, je pense que les films de zombies détestent pas ça. C'est le film avec une structure quand même un peu plus classique.
Okay.
Il y a quelque chose, là, je veux dire, on n'est pas dans la logique un peu, là, comme on disait tantôt, de rêve. C'est quelque chose quand même d'assez comme... Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. L'histoire se tient, les effets spéciaux sont quand même très, très bien faits. Fait que je pense que Zombie 2, c'est une bonne porte d'entrée. Si on veut comme... Je dirais aller comme dans quelque chose qui peut être peut-être moins horreur, mais vraiment intéressant. Là. Puis même s'initier au giallo, A Lizard in Woman's Skin, c'est super intéressant.
OK.
Puis c'est un film d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais qui va y amener aussi des problèmes parce qu'il y a une scène, entre autres, là-dedans où on va arriver sur un moment où il y a des chiens qui sont comme éventrés. Là. Puis il va être amené en cours hein, parce qu'on était convaincus que c'était des vrais animaux.
OK.
Puis ça va se rendre jusqu'en cours. Puis en fait, ce qui va le sauver, c'est que son technicien d'effets spéciaux arrive avec les chiens. Puis il va montrer la conception là, en cours. Mais tu sais, quand on disait la provocation, ça l'a amené aussi à avoir, comme dans ce cas-là, des mêlées avec la justice. Fait que The Other Woman's Skin, c'est un super beau film. Tu sais, on parlait de des années 70. Ça flash. C'est psychédélique. Ça, c'est un grand film. The Beyond, je pense que c'est un autre film là, à voir, mais si on aime une structure un peu plus linéaire, je pense que c'est peut-être
c'est à y C'est pas par lui qu'il faut commencer.
C'est pas par lui qu'il faut commencer. Là.
Mais comme c'est considéré un peu comme son chef-d'œuvre, je pense qu'il faut prendre un moment, connaître le réalisateur, puis après ça, de pouvoir rentrer là-dedans.
Tout à fait. Là. Je pense qu'on ne se trompe pas avec ce film-là aussi. Là.
Puis tu disais, dans sa troisième phase ou dans son déclin, il a quand même fait des films intéressants. T'en as-tu là-dedans que tu recommanderais quand même?
Ben. T'sais, ça dépend des goûts. Là. Il a fait ce qu'on pourrait appeler une comédie d'horreur, là, c'est Cat in the Brain, où en fait, il va jouer son propre rôle.
Okay.
En fait, c'est un film assez étrange. Et en fait, c'est Fulci qui se joue lui-même, qui en vient à être... il fait une thérapie avec un gars qui l'hypnotise. Puis finalement, C'est comme si son œuvre vient le hanter, puis il y a de la misère à faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je ne veux pas vendre le punch, là. Mais c'est entrecoupé de plusieurs de ses films. Fait que c'est comme une auto-rétrospective de son œuvre avec un peu, une auto-dérision. C'est un film assez étrange. Après ça, ses derniers films, Door to Silence, c'est intéressant. Mais tu sais, je dirais, pour le connaître, là, je dirais, tu sais, la dernière partie de son œuvre, c'est probablement la moins intéressante, là, honnêtement. Il a fait des téléfilms aussi, là.
OK.
House of the Clock, si ma mémoire est bonne. C'est bien, là, mais je dirais, tu sais, je pense qu'il faut aimer l'œuvre pour pouvoir aimer la troisième partie avant, pour faire encore voir, comme un peu comme avec Nostalgia, c'est intéressant.
Ah oui, on va rechercher des éléments qu'on aime du réalisateur.
Je pense que si on commence par là, tu sais, on voit un cinéaste qui est comme fatigué, épuisé, peu de budget.
Amer.
Fait que, tu sais, je dirais, c'est clairement la période dorée là, qu'on a discuté tantôt, je pense qu'il est la meilleure porte d'entrée. Là.
Merci, Jimmy Francard, pour ta connaissance de Lucio Fulci. Ça me donne le goût d'en écouter dès ce soir. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine!
Vidéo Terreur est une réalisation de Jean-François Bourbeau, animée par Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. La captation vidéo et sonore a été réalisée par Cynthia Dufour et Jean-François Bourbeau. Scénarisation et recherche, Jimmy Francoeur. L'ambiance sonore est une création de Jean-François Bourbeau. Coordination, Andréane Bouchard. Pour nous rejoindre, vidéoterreur@hotmail.com.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Diodilac.